Et l'heure, 14h.
Pierre Paulus est en studio, député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles pour le Parti conservateur du Canada. Monsieur Paulus, merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Bon Vous avez des grosses semaines à Ottawa ces temps-ci?
Oui, pas mal. La saison de rentrée parlementaire a déjà un mois de passé,
ouais.
Puis ça roule. Beaucoup
ouais.
de sujets.
Avez-vous rencontré Donald Trump jusqu'à maintenant? Depuis qu'il est au pouvoir?
Non, j'étais à Washington la première élection.
Ouais.
J'étais invité, j'étais là-bas, mais j'ai pas eu l'occasion d'être proche de lui en tant que tel.
Puis le fait qu'il remporte pas le prix Nobel, ça vous laisse ni chaud ni froid? Là.
Ben, l'important, je pense, c'est plus l'action qui a été réalisée en train de mettre fin au conflit en Israël avec Gaza. Je pense que c'est ça le plus important.
En même temps, c'est pas la première fois qu'il y a un cessez-le-feu. Là, il y a une promesse de remettre
les otages.
Non,
mais là, on voit quand même, on peut au moins donner le crédit à Donald Trump d'avoir quand même mis beaucoup de pression, d'avoir réussi à amener un plan, puis le plan a commencé à s'exécuter. On espère que ça va se continuer. Puis, on peut lui donner ça. Et pour le reste, le prix Nobel, ça ne m'appartient pas de choisir les nominés.
Vous l'auriez donné à qui?
Ah, ben, je pense que la dame qui l'a reçu le mérite très bien.
Oui! Suivez-vous les élections municipales un peu?
Un petit peu.
Oui. Vous êtes alerte là-dessus?
Évidemment. On surveille, on regarde comment les enjeux de la Ville de Québec m'intéressent évidemment comme député de Québec. En même temps, comme j'ai déjà mentionné ici en onde, on ne se mêle pas de l'élection de notre côté. Quand on est en campagne au fédéral, on n'aime pas ça que les autres niveaux de gouvernement se mêlent de nos affaires. Donc, je fais la même chose. Je regarde, mais je ne commente pas vraiment qui sera le ou la meilleure mairesse, maire de Québec. Ça appartient aux citoyens.
Dans l'actualité, aujourd'hui, on parle du troisième lien, les candidats à la mairie de Lévis qui disent pas le bon tracé, on le veut pas là. On sait que le Parti conservateur du Canada s'est positionné pour un troisième lien.
Ben oui.
Appuyez-vous les maires, les candidats à la mairie de Lévis?
Bien, nous autres, comme j'ai déjà mentionné également, c'est que le choix du tracé ne nous appartient pas au fédéral. Vraiment, c'est le gouvernement du Québec qui a l'expertise technique de décider à quel endroit on peut le mettre. Nous, on dit simplement, c'est que les conservateurs, on va aider à financer le projet. Par contre, le choix de l'emplacement, on peut pas, on se mêle pas de ça. C'est pas à nous de faire l'ingénierie de tout ça.
De voir que, puis on va passer à votre sujet par la suite, là, j'ai l'impression qu'on fait du bang, 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 que des gangs criminels peuvent s'immiscer dans les élections sans que le directeur général des élections puisse dire son mot. On trouve ça un peu particulier, monsieur Paulus. Là. Puis, tu sais, les conservateurs ont toujours été tough on crime. Là, de voir que des gangs criminels pourraient infiltrer le milieu, c'est inquiétant.
Ben oui, parce que je pense que la première des choses, en tout cas au niveau fédéral, nous autres, comme mon parti par exemple, on fait des vérifications d'antécédents. Ça fait partie, tu dois être clean, tu peux pas te présenter à une élection si tu as un dossier criminel ou si tu as déjà commis des actions criminelles. Donc, je ne sais pas au niveau du Québec, là, au niveau de la Direction générale des élections du Québec, c'est quoi les règles, mais je sais qu'au fédéral, ça ne passerait pas.
Quand vous vous annoncez comme député, y a-t-il un check-up qui est fait par les autorités? Y a-t-il, je sais pas, la GRC qui s'inquiète du fait qu'il y a des députés qui arrivent? Ils regardent ça un peu dans
la première des
vie?
Choses qu'on doit faire comme candidat, tous les candidats doivent aller chercher leur antécédent au niveau du poste de police. Non? On fait une demande d'antécédent. Donc, pour vérifier qu'on n'a pas de dossier criminel, qu'il n'y a rien. Par la suite, les partis ont une responsabilité également, comme le Parti conservateur a fait des vérifications très, très, très approfondies sur chaque candidat. Puis on va même remonter dans les dossiers des médias sociaux pour aller vérifier qu'est-ce qui a déjà été dit. Il y a des candidats qui ont été éliminés juste par des commentaires qui ont été faits il y a 4-5 ans dans les médias sociaux. Donc, les antécédents criminels, hyper importants.
Avez-vous une prise d'empreinte?
Non, pas pour ça.
Un détecteur de mensonges?
Non, mais c'est ça, mais la vérification d'antécédents, tu vas au poste de police, tu demandes une vérification, eux vont voir dans le système, vont vérifier, vont confirmer, ils vont donner un rapport qui dit cette personne-là n'a pas d'antécédent criminel.
Puis eux autres doivent avoir les papiers de la GRC, parce que même si on a un pardon, la police de Québec ne le verra pas, mais la GRC vont savoir que vous avez fait une demande de pardon. OK, on passe à votre sujet, M. Paulus. Le Parti conservateur, puis je reprends les mots de Mario Dumont dans sa chronique, le Parti conservateur du Canada qui a lancé un débat cette semaine. Ça a fait en sorte que les autres partis ont placé leurs mains sur leur tête en criant « Non, horrifié! » La question des droits du sol. Les droits du sol, on parle ici du fait qu'un bébé né en sol canadien, quelles que soient les circonstances, jouisse automatiquement de la citoyenneté canadienne. Vous avez ramené ça au Parlement. C'est quoi exactement la question du droit du sol? Puis pourquoi ramener ça là aujourd'hui en octobre?
Parce qu'il y a de l'abus. Il y a énormément d'abus avec l'immigration au pays. On le voit là, qu'il y a des demandes d'asile, des faux demandeurs d'asile, des faux étudiants étrangers qui viennent ici. On a des gens qui étirent, on font une demande d'asile, sont refusés, mais ils vont trouver toutes les possibilités pour étirer le dossier. Ça peut prendre des années et des années.
Ouais.
Pendant ce temps-là, ben, y a des gens qui ont des enfants. Ils font des bébés, et puis là, ben, ces enfants-là ont automatiquement la citoyenneté canadienne. Donc là, tu arrives avec des gens qui viennent ici, sous de faux prétextes, demandent l'asile ou trouvent une façon de vouloir rester au pays. C'est refusé. Mais le temps qu'on fasse la procédure, ben, on a un enfant, donc l'enfant arrive, l'enfant est automatiquement canadien. Ces gens-là disent maintenant, « Ah, ben là, j'ai un enfant canadien, je peux pas m'en aller. » Donc, il y a un abus du système. Et c'est ça qu'on a demandé. Nous, on demande des changements.
Ça peut-tu être quelqu'un, je ne sais pas moi, qui vient de l'Amérique du Sud, qui est en voyage au Québec pendant quelques jours, puis ça s'adonne qu'elle accouche là? Ça peut-être ce type de voyage-là ou ben, c'est vraiment des voyages qui sont prévus?
Ben ça, quand tu arrives en voyage comme ça, puis tu es sur le bord d'accoucher, c'est parce qu'il y a aussi des voyages pour justement accoucher au Canada. Il y en a qui vont se préparer, puis ils vont s'organiser pour une couple de semaines avant d'accoucher.
Ça arrive
en tourisme, le tourisme médical qu'on appelle.
Oui.
Donc ça, y a pas, au niveau du fédéral, on n'a pas les données précises. Par contre, on a des témoignages, puis je pense que M. Dumont s'en parle dans son article, il y a des témoignages de médecins qui le confirment, qu'il y a des gens qui viennent ici juste pour accoucher, pour avoir le passeport. Et là, nous, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que on doit mettre des exceptions. On ne peut pas continuer de donner des passeports canadiens, la citoyenneté canadienne de cette façon-là, sachant qu'il y a des gens qui sont ici sous de faux prétextes de réfugiés, de faux prétextes d'être des étudiants, de venir ici juste pour accoucher, pour avoir le permis. Oublions pas qu'actuellement, sur le territoire du pays, on a 3 millions de personnes qui sont sur des visas temporaires. Ça, c'est 3 millions de personnes-là. Il y en a qui sont venus travailler. Donc, quand on a des travailleurs temporaires qui viennent, il n'y a pas de problème, ils viennent ici travailler. Mais si ces gens-là font des enfants, après ça, ils disent on ne peut plus retourner dans notre pays parce qu'on a des enfants canadiens. Après ça, là, les faux étudiants, on a eu des problèmes aussi avec la mafia africaine. Là, j'en ai parlé à la Chambre des communes il y a 2 semaines. On a des gens qui viennent ici puis qui profitent du système. Puis là, ben c'est ça. Là, à chaque fois qu'ils font des enfants, demandent de rester alors qu'ils n'ont pas le droit de rester, ça ne peut pas fonctionner. Ça, c'est ma collègue Michelle Rampel-Garner qui, au comité de l'immigration, a déposé un amendement parce qu'actuellement, il y a un projet de loi qui parle d'immigration.
Ouais.
Puis elle a amené un amendement au comité. Mais cet amendement-là a été voté, évidemment, par les conservateurs, mais malheureusement, le Bloc québécois n'a pas soutenu. Si le Bloc avait, Alexis Duceppe, du Saguenay, si Alexis avait accepter l'amendement aurait passé.
Ça aurait été accepté.
On pourrait procéder puis avancer. Okay.
Mais quand vous dites la mafia africaine, c'est leur spécialité? Ils envoient des femmes
enceintes? Non, pas pour ça, pour différents crimes, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des raisons pour venir au pays. Exemple, la mafia africaine vient au pays sous de faux visas étudiants. Donc, ils s'organisent pour payer des frais d'inscription dans des écoles, mais arrivent ici, ils ne vont pas à l'école du tout. Ils commencent à faire du crime organisé, puis ils font différentes arnaques, comme les arnaques amoureuses ou les arnaques, par exemple, les gens qui se font exploiter, qui vont vider leur compte de banque là, pour différentes raisons. Ça, ça a été sorti à la Chambre des communes la semaine passée.
Puis on est-tu le seul pays qui se pose des questions sur les droits du sol? Est-ce que ça a été fait ailleurs?
Il y a des pays. Aux États-Unis, ils l'ont encore, mais je pense qu'il y a des débats là-dessus.
Exact.
Ailleurs, en Europe, il y a des pays qui n'ont pas question. Là, il y a des conditions. C'est sûr que quelqu'un qui vit au Canada, je sais pas moi, mettons un Canadien, qui a une conjointe qui vient de l'étranger, qui a un enfant, là, il n'y a pas de problème, l'enfant va avoir la citoyenneté. Si la personne vient demander l'asile, qu'il y a une reconnaissance de la demande d'asile, puis que fait partie maintenant du système d'intégration, puis qu'il y a un enfant, il n'y en a pas de problème. Nous, on est vraiment sur l'exception des gens qui sont ici sous de fausses représentations.
Je reviens sur votre exemple de tout à l'heure, des étudiants étrangers. Bon, la conjointe tombe enceinte, on accouche et l'enfant est automatiquement citoyen canadien. Autrement dit, pour changer ça, faudrait que ces gens-là, il y en ait un des deux qui soit citoyen canadien.
Ben c'est ça. Ça, dans notre clause, si quelqu'un, un des parents est canadien, il n'y a pas de problème. Mais nous, ce qu'on en a, c'est les gens qui viennent ici sous de faux prétextes. Les demandeurs d'asile aussi, qui sont déjà avertis que leur demande d'asile est refusée.
Mais font un enfant,
puis continuent à étirer le système pour ne pas être déportés.
Parce qu'il faut trouver une certaine mesure juste parce que, tu sais, je m'explique, là. Ça se peut que les deux étudiants étrangers qui sont ici, ils n'avaient pas prévu tomber enceinte, mais la femme est tombée enceinte puis ils décident de le garder.
Absolument, absolument. Mais c'est pour ça qu'on fait une distinction avec les gens qui sont des faux demandeurs, des faux étudiants. C'est là qu'on a un gros problème au pays actuellement. Il y a énormément de fraude à ce niveau-là. Puis imaginez là, 3 millions de personnes. Que là-dedans, il y en a des centaines de milliers qui décident d'avoir des enfants. Ces enfants-là sont automatiquement canadiens actuellement. Mmh. Fait que les personnes qui devraient normalement quitter le pays vont se servir de ça pour vouloir rester. Donc, c'est, nous, ce qu'on en a aussi, c'est la valeur du passeport canadien. C'est quoi d'être canadien? N'oublions pas qu'il y en a qui vont venir ici, mm-hmm. vont profiter de la situation, ils vont retourner dans leur pays, mais à un moment donné, s'il y a une maladie quelconque qui arrive, puis ça coûte cher, bon, on va aller au Canada.
Ouais,
parce
mais c'est
que
ça, ça doit nous coûter des millions, ben oui. sinon des milliards de dollars
par
année. Il y en a
qui reviennent
ça.
Au pays pour avoir des soins gratuits, puis après ça, ils vont retourner. Oui. Juste parce que le passeport, imagine la valeur d'un passeport là, quand tu es d'ailleurs, puis tu peux revenir ici pour les besoins que tu as. Ou si ça se met à brasser un peu dans ton pays, bon, ben regardez, on fait nos valises, on retourne au Canada, on est Canadien. Il faut vraiment se protéger la valeur de notre passeport, de notre citoyenneté. Et c'est là-dessus qu'on en a. Puis oui, c'est sûr qu'il y a des... parler de ça, il y en a qui vont se mettre, comme Mario Dumont disait dans l'article, les autres partis, les libéraux, même le Bloc, ils parlaient de ça.
Mais même dans le vrai monde, là, les gens ordinaires dont je fais partie, j'entends régulièrement des gens dire « on a accueilli beaucoup trop d'immigrants ». Puis c'est important d'accueillir de l'immigration,
contrôler.
Mais il faut être capable exactement de loger ces gens-là. Il faut être capable de les envoyer à l'école, ces gens-là. Il faut être capable de les nourrir, ces gens-là. Puis j'entendais le premier ministre François Legault dire « tu sais, c'est-tu normal qu'après 6 mois, quand tu accueilles quelqu'un ici, que tu sois encore obligé de donner de l'aide sociale. » ça peut être cruel quand on dit ça, oui. mais à quelque part, cette aide sociale-là, c'est de l'argent qui vient de quelque part.
Il y a des demandes de réfugiés, ça va jusqu'à 3 ans, si je ne me trompe pas.
Ouais, plus que ça, jusqu'à 7 ans. Mais il y a des... Nous, on l'a tout le temps dit, puis dans nos communications, on est clair là-dessus. On n'en a pas contre les personnes qui veulent immigrer ou qui veulent essayer de s'en venir au Canada. On peut comprendre qu'il y a des gens dans le monde qui ont le goût de s'en venir ici. Oui. Par contre, c'est à nous comme pays... puis la responsabilité au niveau du gouvernement fédéral de contrôler la façon que ça se passe.
Pour mieux
c'est
les
là
intégrer.
Qu'il y a eu une perte de contrôle total. Vous savez, vous vous souvenez du début du chemin Roxham?
Oui.
Ça, c'est Justin Trudeau qui avait dit à tout le monde, venez-vous au Canada, on va vous accueillir. Ça a commencé là. Puis là, ça a continué. Et à un moment donné, c'est ça, les demandes d'asile, les réfugiés, le Canada a toujours accepté d'emmener des réfugiés, des gens qui sont pris dans des guerres dans le monde. On les amène, on les installe, on s'occupe d'eux, puis ils ont une meilleure vie. Mais d'arriver ici sous de faux prétextes, on a eu des exemples à un moment donné du Nigeria. Il y avait des réseaux organisés criminels. Là, tu payais 5 000 $, tu prenais l'avion, tu arrivais à New York. New York, ils t'emmenaient en autobus jusqu'au chemin Roxham en taxi. Puis là, tu t'en venais comme ça. Tout est connu, là. Fait que ça, tu peux pas accepter de gérer ces gens-là comme si c'était pas grave.
Mais allez-vous être capable de passer au travers sans vous faire qualifier constamment de raciste?
Ben, je me suis fait traiter de raciste une couple de fois dans la Chambre des communes par Justin Trudeau.
Ben oui,
récemment,
ben oui,
quand j'ai parlé de la mafia africaine, le ministre de la Sécurité publique s'est levé et m'a traité de raciste. Fait que là, j'ai un détachement face à ça parce que moi, je le fais pour les bonnes raisons. Mon parti aussi, on le fait pour les bonnes raisons. On a des gens racisés, qu'on appelle en guillemets, là, dans notre équipe. Puis ces gens-là sont... absolument d'accord d'avoir un meilleur contrôle. On parle des communautés indiennes, par exemple, à Brampton, tout ça. Les gens disent, ça n'a pas de maudit bon sens. Il y a tellement de monde qui est rentré ici sous de faux prétextes. Là, les communautés sont prises à devoir accueillir ce monde-là dans des maisons qui sont rendues 12 par maison parce qu'il n'y a pas de place nulle part. Puis ça ne marche pas. Fait que, il y a une demande au niveau canadien. C'est pas juste le Québec. Au niveau du pays, il y a des communautés qui sont affectées par tout ça. Puis le coût de la vie, etc. On dit non, là, on ne peut plus continuer de même. Et cet élément-là, du droit du sol... On considère, nous autres, que si tu n'as pas d'affaires au pays, tu es venu ici sous de faux prétextes, ben c'est pas vrai que ton enfant devrait automatiquement être Canadien. Parce que ton pays, tu peux retourner dans ton pays, ton enfant aura la citoyenneté de ton pays d'origine, that's it. Tu n'avais pas d'affaires à venir ici, on t'a pas demandé de venir ici, donc c'est pas vrai qu'on va te donner la citoyenneté à tes enfants.
En termes d'immigration, les 3 provinces les plus affectées sont le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique. C'est là que le plus d'immigrants qui arrivent. Est-ce que le Parti conservateur pense à des façons de peut-être... répartir mieux cette charge-là? Puis je pense à l'Alberta, la Saskatchewan...
Ben, il y a plusieurs éléments. C'est parce que l'immigration, souvenons-nous, avant les années Trudeau, là, dans les années Harper, puis même avant avec les chrétiens, je veux dire, il y avait des niveaux d'immigration au Canada qui étaient contrôlés. Donc,
oui.
on avait l'immigration économique, les réfugiés, les besoins temporaires, mais il y avait un calcul. Puis le Canada demandait aux gens ou acceptait les gens selon les besoins, puis tout roulait bien. C'est juste dans les dernières années, 10 dernières années, les libéraux l'ont échappé complètement en voulant être meilleur que tout le monde, en voulant être le grand, les mains ouvertes, le cœur ouvert. Là. Puis là, ça a créé de l'abus. Là, les gens ont vu qu'il y avait une brèche dans le système, puis ils ont rentré dedans. Puis c'est ça qui s'est passé actuellement, comme l'émission des visas temporaires pour les faux étudiants. Les travailleurs étrangers temporaires aussi. Nous, on a demandé de fermer ce programme-là, mais en se donnant 5 ans pour s'ajuster, parce qu'il y a eu de l'abus également là-dessus.
C'est toujours une question de gestion. Donc, j'imagine que vous appuyez beaucoup ce que la CAQ est en train de faire avec Jean-François Roberge?
Bien, la CAQ, de leur côté, Ils regardent au niveau du Québec, c'est quoi les besoins du Québec, c'est quoi les réalités aussi. Montréal, c'est un enfer, là, à un moment donné, il y avait...
Vraiment.
Puis le coût aussi associé à ça, le gouvernement du Québec a demandé 750 millions au fédéral pour rembourser les coûts pour accueillir des gens qui demandent l'asile.
En mesure sociale.
En mesure sociale, exactement. Fait que le coût est payé par Ottawa, mais il reste que les citoyens payent la facture aussi. Puis à un moment donné, bon, on a des gens là-dedans, comme je disais, un vrai réfugié accueilli, on s'en occupe, ça va bien. Mais quand tu débarques ici, tu prends un billet d'avion en disant « je m'en vais au Canada en touriste », tu arrives à l'aéroport, tu demandes l'asile. Là, ça finit plus, ça.
Mais qu'est-ce qui fait en sorte... Bon, quand il y a eu le tremblement de terre à Haïti, là, ça a été une catastrophe épouvantable. Les Haïtiens sont allés aux États-Unis, ils ont vécu là pendant un certain temps. Puis une fois que Haïti allait mieux, ben Donald Trump a dit, ben vous allez retourner dans votre pays. Puis là, les Haïtiens, ils ne voulaient plus retourner dans leur pays. Y a-t-il quelque chose qu'on peut mettre en place? Parce que oui, les demandeurs d'asile, quand leur vie est en danger dans leur pays, c'est correct de les accueillir ici pendant un certain temps. Mais y a-t-il quelque chose qu'on peut mettre en place que, à partir du moment où le pays est revenu à la normale, on peut dire, ben, on vous a accueilli chez nous pendant 6 ans, maintenant on retourne à la maison?
Ben, on le fait actuellement avec l'Ukraine. C'est quand la guerre en Ukraine a commencé, qu'il y a 8 millions d'Ukrainiens qui ont été obligés de sortir pour se protéger, le Canada a ouvert les portes en disant « venez-vous-en au Canada ». Fait qu'on a des Ukrainiens actuellement sur le territoire canadien. Là, j'ai pas le nombre précis en tête, là, mais il y a plusieurs dizaines de milliers d'Ukrainiens qui vivent ici. Au début, ça sera 3 ans. Puis là, dépendamment de la guerre continue, fait qu'ils vont pouvoir avoir une extension. Mais il reste que quand la guerre va être fini là-bas, que le pays va revenir à la normale, ben, ces gens-là vont retourner dans leur pays.
Ils n'ont pas moyen pour eux de rester ici?
Ben, ça dépend des cas, mais normalement, si l'Ukraine revient avec une paix puis que les infrastructures là-bas sont rebâties ou je sais pas quoi, ben ils vont pouvoir retourner chez eux. Mais là, après ça, faire une demande de résidence permanente, ben, dépendamment des motifs. Mais si le pays... Si on a accueilli les gens pour des considérations humanitaires dans un cas de guerre comme ça, puis que le pays n'est plus en guerre et on peut retourner normal, ben normalement, tu retournes chez vous.
Mais accueillir autant de gens comme on a accueilli au Canada, pas être capable de les intégrer efficacement, ça a créé certaines problématiques. Les libéraux ont été épouvantables au niveau de l'économie, nous ont creusé une dette comme pas possible. Ça, on va essayer de faire avec, j'imagine, lorsqu'il y aura des changements de gouvernement, puis on va replacer les choses. Mais ce qui m'agace le plus, c'est le fait qu'on est arrivé dans le système de justice, puis on a dit, ben les gens qui étaient là avant, les maudits conservateurs méchants, étaient tough on crime. Nous autres, on va faire en sorte qu'on va y aller avec les statistiques, puis on va assouplir certaines choses parce qu'on croit à la réinsertion sociale. Je crois à la réinsertion sociale dans certains cas, mais quand il y a des crimes sur la personne de M. Paulus, j'ai un peu plus de misère de voir que quelqu'un qui a agressé sexuellement une femme parce qu'il est né à une place ou il est né d'une autre couleur, ben un juge va dire, ouais, lui, on va le mettre, sa sentence, ça sera pas en prison parce qu'il va augmenter les statistiques des libéraux en prison. On va y faire passer sa sentence chez eux. Ça m'agace beaucoup, M. Paulus.
Ça, c'est la loi C5.
La fameuse C5. Mais en même temps, les juges sont pas, ils peuvent pas faire la différence entre un noir ou un autochtone ou un blanc. Donc, ils vont donner ça à tout le monde.
Ouais.
Pour la plupart.
Il y a deux volets. Actuellement, C5 qui a été mis en place par les libéraux. La prémisse de base, c'était ça, c'est de dire qu'il y a trop de personnes racisées, noires ou autochtones en prison.
Ouais.
Donc, ils ont mis cette loi-là en place pour permettre d'avoir des peines à la maison au lieu d'avoir des peines en prison.
Pour améliorer les statistiques des
pour
libéraux.
Pour faire baisser les niveaux de ces groupes-là en prison. Ce qui est ironique, c'est que la première personne qui a été accusée, qui a bénéficié d'une peine à la maison, c'est un blanc. Un gars qui a fait une agression sexuelle grave contre son ex-conjoint.
Parce que le juge ne peut pas faire la différence entre un blanc, un noir ou un autochtone.
C'est ça. Mais là, les libéraux ont mis un autre programme en place que le Québec conteste avec raison. C'est que justement l'évaluation de l'origine. Donc, un programme fédéral actuellement. Là, j'ai pas le nom avec moi. Là, j'oublie le nom, je m'excuse. Mais c'est un programme qui évalue l'origine. Donc, si la personne vient d'une communauté noire, par exemple, là, il y a un groupe qui évalue pour dire, OK, cette personne-là, finalement, a eu une enfance plus difficile parce qu'il était dans des conditions différentes. Puis là, ben là, il donne un rapport au juge pour demander au juge de prendre en considération l'origine de la personne, comment il a vécu sa jeunesse. Nous, on comprend pas ça. On dit
un crime, c'est un crime. Ben, la victime, peu importe la couleur.
Est-ce que la prévention est importante? Ben oui. Est-ce qu'il y a des mesures d'aller dans les communautés puis d'influencer les jeunes à ne pas rentrer dans le monde criminel? C'est bien entendu qu'on est pour ça. Mais à partir du moment que tu es là-dedans, tu commets un crime, faut que tu fasses ton temps. Puis est-ce que la réhabilitation, on croit ça? Ben oui. Si tu fais 5 ans de prison, puis pendant que tu es en prison, tu as fait des programmes, que tu sors de là, tu dis, gars, j'ai fait une erreur de jeunesse, puis là, maintenant, je m'en vais dans le droit chemin, tant mieux. Mais il y en a qui sont des récidivistes en puissance, puis absolument rien à faire avec eux autres. C'est une autre affaire qu'on a dénoncée dernièrement. ou la loi C-75 également qui avait été mise en place par les libéraux, c'est que tu te fais arrêter, trois heures après, tu es ressorti dans la rue, puis ils recommencent le crime, puis ils se font arrêter, mais les juges ont une obligation d'y ressortir tout de suite. C'est complètement... Il n'y a plus rien qui se tient debout.
Trouvez-vous que la couverture au Québec est un peu particulière par rapport au gouvernement du Canada? J'ai l'impression que le jupon dépasse, puis en passant, le jupon de tout le monde dépasse là, dans la patente, mais de voir que Mark Carney va rencontrer une première fois Donald Trump à la Maison-Blanche, revient bredouille, et là, le Journal de Québec, Journal de Montréal, 1-0 Mark Carney!
Il a tenu tête, il a dit que le Canada n'était pas à vendre!
Après ça, il retourne voir une deuxième fois Donald Trump. Sur une conférence de 2 heures, il a parlé peut-être 2-3 minutes.
Oui,
Mark
mais
Carney.
Donald a dit que Mark, c'était un nasty.
Ce qui fait que M. Leblanc a dit on est content de l'avancement, mais on n'a toujours pas de signature, on n'a pas d'entente. Et au Québec, là, Mark Carney à côté, alors qu'il ne nous a rien rapporté depuis qu'il est mis au pouvoir. La couverture médiatique québécoise, est-ce qu'elle est plus dure à l'égard des conservateurs ou peut-être un peu plus amie à l'égard des libéraux?
Bon, honnêtement, pour être honnête, je pense que les gens des médias qui m'entendent ce matin, ils peuvent pas dire le contraire. Ça a toujours été, les conservateurs, on a toujours eu un problème de couverture médiatique. Quand on fait des bonnes choses, on n'en parle pas. Puis c'est quand il y a une petite accro qu'on entend parler.
Le français de Mark Carney, ça a sorti hier, 17% ah oui. seulement en français. Puis là, j'ai un de mes chroniqueurs à mon émission du midi, Rémi Villemur, qui me disait « Hey, Stephen Harper... » Ça faisait un devoir de parler toujours en français, même dans des pays qui n'étaient pas francophones. Ouais. Vous en pensez quoi comme député conservateur ici à Québec?
Ça, là-dessus, il faut que je le donne à Radio-Canada. C'est Radio-Canada qui a fait l'étude, qui ont fait l'évaluation. Fait que ça, ils ont déterminé finalement que 17 % du temps, Mark Carney parle en français. Mais là, on parle dans des discours officiels.
Exactement.
Avec un télésouffleur, un téléscripteur, des notes. Donc, il n'y a pas besoin de savoir parler français. Il y a juste à lire l'écran, là, puis ça va marcher. Mais juste 17 % du temps en français, c'est inacceptable. Stephen Harper le faisait à presque 50-50. Pierre Poilievre commence toujours en français, même ses discours à Chambre des communes, ses interventions médiatiques.
C'est vrai qu'il commence toujours en français,
toujours,
hein, M.
toujours,
Poilievre?
Toujours. Puis les discours en chambre qui durent 20 minutes, il va avoir le premier 10 minutes en français, il va finir en anglais.
Et pourquoi il choisit le français en premier?
Ben, c'est le respect de la Fondation du Canada. M. Harper, c'était ça. Pierre Poilievre est dans la même lignée. Le respect de qui on est. Quand on parlait tantôt de la valeur d'être Canadien, c'est quoi l'identité canadienne? Là? Ben, ce pays-là a commencé ici, là, à Québec. Là. Ça a commencé en français. Même l'hymne national a été écrit ici au manège militaire.
C'est vrai.
Okay? Fait qu'il faut repenser à ça, il faut s'en souvenir. Et ça fait partie d'une responsabilité d'un premier du pays de souvenir et surtout de mettre de l'avant le français et l'anglais à égalité.
Votre beau-frère Paul vient d'écrire « J'adore tous les points, vues et idées du député Pierre Paulus ».
Mon beau-frère.
Vous n'avez pas de beau-frère qui s'appelle Paul?
Non, mais c'est pas lui.
Ben, merci à Paul. Merci à Paul.
Monsieur Paulus, ça a été un plaisir.
Merci.
Pierre Paulus, qui était de passage dans les studios de Boulevard. Pierre Paulus est député de Charlesbourg, de Saint-Charles pour le Parti conservateur du Canada. On parlait des droits au sol, seuil d'immigration, puis on a placoté aussi sur plein de sujets. L'entrevue sera disponible sur la page blvd.fm et sur l'application. Max, sur tes radars, tu vois-tu quelque chose?
À la circulation, ça a été un pas pire matin. Présentement, c'est pas mal ouvert partout, je te dirais.
Merci beaucoup. On a gagné des degrés à Québec. C'est rendu 1 degré. Ce sera ensoleillé aujourd'hui. Ça va se réchauffer. Maximum de 12 pour aujourd'hui. Ce soir, cette nuit, ciel dégagé. Minimum de plus 2 avec risque de gel par endroit. Demain, samedi, début du week-end, ensoleillé avec un maximum de 16. Dimanche, ce sera ensoleillé avec un maximum de 16. Et lundi, il part avec mon muffin. Un conservateur qui part avec mon muffin!
Il a volé le muffin.
On vient de parler justice! C'est quoi? Il a pris mon bleuet en plus!
Ouais, c'est mortel!
C'est mon préféré aussi!
Hey, j'ai dit oui!
Non, c'est correct, c'est une blague. On en a amené pour tout le monde. Monsieur Paulus, bataille. Lundi, 13 octobre, on sera plusieurs en congé cette journée-là. Ce sera nuageux avec un maximum de 11. Hey, faut les watcher, ces députés-là!
Il me fait signe,
toutes des voleurs, les politiciens!
Ça gagne 200 000 au Parlement, à Ottawa, là, ils volent mes muffins! Faut cher des muffins!
On est accueillants, notre l'air comme gars.
Ouais, oui. Mais c'est Martin
Merci
Dallaire.
À Martin Dallaire.
C'est Martin Dallaire qui
nourrit Pierre Paulus.
Exactement.
Yes, on fait la vente. C'est nous autres qui prenons le crédit.
Oui, exactement.
C'est cœur.
On fait une courte pause, on vit. Marceau le matin. Marceau le matin.